Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Nous allons voir ensemble le psaume 48. Psaume 48. Et voici donc la parole de Dieu. Cantique, un psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite, car voici, les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tout stupéfaits, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart. Examinez ces palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Et c'est là la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous ont eu le privilège de voyager, que ce soit ici en France ou à l'étranger, de voir différents pays, d'aller même sur différents continents, même au milieu de ce petit groupe que nous formons. Nous avons des origines de trois continents différents, le continent africain, le continent européen, le continent américain. Mais je ne suis pas sûr que je ne pense pas que quelqu'un d'entre nous soit allé à Jérusalem, sauf si je ne connais pas la vie de tout le monde, mais apparemment non, tout le monde hoche la tête, personne d'entre nous n'est allé à Jérusalem. Mais nous avons le privilège de voir quelque chose de bien meilleur, bien plus sain que les vieilles pierres de la ville de Jérusalem. Avec tous les contacts que nous avons en France, en Suisse, en Angleterre, en Sibérie, en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, aux États-Unis et bien d'autres pays, nous avons le privilège d'avoir un aperçu de l'Église de Jésus-Christ. Cette Église qui accomplit tout ce que la Jérusalem terrestre représentait en tant que cité de Dieu. Le psaume 48 glorifie Dieu. Alors que le psalmiste loue la ville sainte de Sion, de Jérusalem, et il nous donne une image dont l'Église est destinée à manifester la gloire de Dieu pour la louange de son peuple reconnaissant. La semaine dernière, nous avons vu le psaume 47 qui décrit l'intronisation, si l'on veut, de Dieu alors que l'arche de l'Alliance est amenée au temple, sur la montagne de Sion. Ici, le psaume 48 associe la gloire de Dieu à la splendeur de la ville, à la splendeur de sa ville. Verset 2, l'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Mais la portée de la louange s'étend bien au-delà de la Jérusalem céleste. Un commentateur dit ceci, et que les contours de la Jérusalem céleste, avec ses murs et ses fondations éternelles, sont déjà en vue, même dans l'Ancien Testament, même dans ce psaume 48. Et le premier grand point donc, que nous avons dans ce psaume, c'est la splendeur de la cité de Dieu. La splendeur de la cité de Dieu. Le psalmiste commence, et il termine d'ailleurs aussi par une expression de la louange de Dieu à cause de la ville, à cause de la cité de Dieu. Verset 2, « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. » Un psalmiste, un commentateur écrit ceci, il dit que la conclusion que tire de ce psaume, c'est que le Dieu qui habite Sion est immensément grand et qu'il sera une défense sûre pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Et un autre va encore plus loin, il rajoute, c'est la gloire de sa présence qui rend la ville glorieuse, la force de sa présence qui rend la ville sûre. Dans les premiers versets, Dieu est loué d'abord pour la beauté de sa cité sur la montagne, donc la fin du verset 2, sur sa montagne sainte, verset 3, belle est la colline, joie de toute la terre. Jérusalem se trouve à une hauteur de 762 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est vrai que ceux qui s'approchaient avaient cette impression de grandeur et beaucoup de psaumes parlent de monter vers Jérusalem. Mais l'idée que Jérusalem soit élevée, c'est beaucoup plus théologique que topographique. Michée, par exemple, dans sa prophétie, chapitre 4, verset 1, dit ceci, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, que s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. » L'idée, c'est la prééminence de la ville de Dieu, de la cité de Dieu, de l'Église, son message de salut, et à laquelle, à cette cité, tous les peuples de toute la terre viendront à connaître Dieu. Et dans ce sens vital, la beauté de la ville élevée de Sion est liée à la diffusion de l'Évangile, la proclamation de la bonne nouvelle. Et la portée universelle du psaume 48 continue au verset 3, qui dit que la ville de Dieu est la joie de toute la terre, la montagne de Sion. Notre traduction continue en disant « le côté septentrional », on devrait rajouter « dans le côté septentrional », c'est la ville du grand roi. Si on ne parle que de l'exaltation de Jérusalem à son époque, dans l'ancien temps, le psalmiste s'adonnait à beaucoup d'hyperboles parce qu'à aucun moment dans le monde antique, on ne se concentrait sur l'émerveillement de Jérusalem, à l'exception peut-être du temps du roi Salomon et de son règne éphémère. Mais même au moment du règne de la gloire de Salomon, Sion n'était pas la joie de toute la terre. Et encore ici, le sens est avant tout théologique. Jérusalem est la ville d'où vient le salut pour toute la terre. Jean Calvin explique ceci, il dit « Christ est apparu avec son évangile de Sion pour remplir le monde de joie véritable et de félicité éternelle. C'est de Sion, c'est de Jérusalem que sont partis les apôtres, que sont partis les premiers croyants, et ils sont partis dans le monde entier. » Beaucoup de gens aujourd'hui ne considèrent pas l'Église comme la joie de toute la terre. Ils préféreraient être n'importe où, pratiquement n'importe où, sauf à l'Église, le jour du Seigneur. Ceux qui viennent devraient découvrir à quel point ils s'étaient trompés. Ils devraient être témoins de louanges joyeuses à Dieu, être enveloppés dans la chaleur de la communion, d'amour, et surtout ils devraient entendre la prédication de la bonne nouvelle du salut par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Un autre commentateur écrit « L'Église est la joie de toute la terre en s'attachant à toute la lumière de la doctrine du salut et en montrant l'autorité, la puissance, la sagesse et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'Église qui est la joie de toute la terre. La connaissance de Dieu est elle-même une bonne nouvelle pour le salut. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné cela. En Jean 17, verset 3, quand il a prié, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Comme l'a dit un commentateur tout à l'heure, c'est la seule présence de Dieu qui a fait de Jérusalem la plus grande ville du monde. Et lorsque la présence de Dieu s'est retirée, la ville est tombée en disgrâce. Elle a été défaite. C'est la présence de Dieu qui a fait d'une pierre dans le désert un Bethel, une maison de Dieu pour Jacob, qui fuyait. C'est la présence du Seigneur Jésus dans la crèche de Bethléem qui a fait resplendir l'étoile de la gloire de Dieu sur cette petite ville. Et de même, c'est la présence de Jésus-Christ qui élèvera tout cœur dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Et le verset 3 fait une note qui pointe probablement de façon spécifique au Seigneur Jésus-Christ. Le psalmiste parle de la montagne de Sion. Et comme j'ai dit, il faudrait plutôt lire dans le côté septentrional, c'est-à-dire au nord. C'est une déclaration un peu curieuse parce que Jérusalem n'était pas une ville dans les régions septentrionales du monde. Certains ont soutenu que la ville regarde au nord, peut-être pour contester les citadelles des dieux païens de la Mésopotamie. Mais il est beaucoup plus probable que le psalmiste se concentre sur la partie nord de la montagne de Sion, c'est-à-dire là où le temple de Dieu se trouvait, là où le temple de l'Éternel se trouvait. Et le temple était une construction étonnamment belle à l'époque. Mais plus important encore, le temple était le seul endroit où l'expiation pour le péché était faite en présence de Dieu. Parce que c'était là qu'il y avait l'arche, l'arche de l'Alliance et le propitiatoire. Et c'est le pardon du péché, la réconciliation entre Dieu et l'homme qui ont fait de Jérusalem et qui font de l'Église et de l'Évangile aujourd'hui la joie de toute la terre. L'Église aujourd'hui qui annonce l'Évangile, la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu par la propitiation du Seigneur Jésus-Christ. La splendeur de la cité de Dieu, la splendeur de l'Église. Deuxième grand point, la puissance de la cité de Dieu. Le psalmiste continue en parlant de la puissance, et c'est la présence de Dieu qui fait de Sion une forteresse. Verset 4, « Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. » Ou notre version dit, « Dieu, dans les palais de Sion, se fait connaître comme une forteresse. » La déclaration selon laquelle Dieu est connu ou Dieu se fait connaître comme une haute retraite, comme une forteresse, suggère que le psaume célèbre une délivrance remarquable de la part de Dieu. Peut-être que la délivrance la plus célèbre s'est produite en l'an 701 avant Jésus-Christ, quand l'Éternel a répondu aux prières du roi Ézéchias en envoyant l'ange du Seigneur pour tuer l'armée syrienne, exterminer 185 000 hommes en une seule nuit. Mais il y a d'autres options, y compris quand Dieu a protégé Jérusalem de la grande armée des fils d'Ammon, de Moab et de ceux du mont Séir au temps de Josaphat. Et à cette occasion, le roi a assemblé tout Israël pour se présenter devant le Seigneur dans la prière. Et en 2 Chroniques 20, verset 13, on lit que même les petits-enfants, leurs femmes et leurs fils, tout le monde, était invité à venir se prosterner et implorer la délivrance de la part de Dieu. Et Josaphat a prié ainsi, 2 Chroniques 20, verset 12, Il dit, « Ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Et Dieu a envoyé un prophète avec cette réponse, les versets 15 et 17. « Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. » Et Josaphat est sorti le lendemain matin avec son armée, conduite par les Lévites qui chantaient. Et quand ils sont arrivés au camp de l'armée ennemie, ils ont trouvé des signes de déroute, des corps éparpillés, comme si le Seigneur avait répondu à leur chant en apportant une violente confusion au sein de l'armée ennemie. Dieu s'est fait connaître comme une forteresse, comme une haute retraite pour ce roi. Et les détails des versets 5 à 8 suggèrent que le psaume peut faire référence à cette victoire de Josaphat parce qu'il parle d'une pluralité de rois assemblés contre la ville. Et aussi parce que le psaume célèbre le fait que Dieu a dispersé, qu'il a brisé l'ennemi, comme cela est arrivé en 2 Chroniques, chapitre 20. Il est également à noter que parmi les Lévites qui dirigeaient l'armée de Josaphat, quand ils sont sortis de la ville, il y avait les fils de Coré, à qui on attribue ce psaume. Mais ceci et d'autres exemples bibliques montrent que le peuple de Dieu n'est pas à l'abri des épreuves. Et certaines épreuves sont très sévères. Israël allait être confronté à des luttes douloureuses. Jérusalem allait être assiégée par des ennemis puissants comme les Assyriens, comme la horde orientale au temps de Josaphat. Mais ce que Dieu a promis, c'est qu'il se révélera comme une forteresse à tous ceux qui courent vers lui. L'erreur que font certains chrétiens quand ils souffrent, c'est de blâmer Dieu pour leur malheur. Mais selon le psaume 48, selon toute la Bible en fait, Dieu n'est pas le problème, Dieu est la réponse. Nous ne devrions jamais fuir loin de Dieu dans notre souffrance, mais au contraire courir vers lui et nous trouver à l'abri dans ses bras, à l'abri d'un monde cruel et des ennemis de notre âme. Il est notre forteresse, il est notre haute retraite. Et le psalmiste note particulièrement la consternation avec laquelle Dieu va affliger ses ennemis, versets 5 et 6, « Car voici, les rois s'étaient concertés et n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tout stupéfaits, ils ont eu peur, ils ont pris la fuite. » La succession rapide de ces verbes suggère la consternation soudaine qui a été vécue par l'ennemi. Jules César a décrit ses victoires en Gaule avec une succession de verbes « veni, vidi, vidi, vici ». Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Et les verbes hébreux au verset 6 ont un effet phonétique aussi dramatique. Ils ont regardé, ils ont été stupéfaits, ils ont peur, ils ont pris la fuite. Et le psalmiste emploie deux analogies. La première, c'est l'angoisse d'une femme qui accouche, qui est incapable d'éviter ou de retarder la douleur. La deuxième analogie parle des navires les plus puissants du jour, les navires de Tarsis, qui sont dispersés par le souffle d'un vent d'est qui est soudain et qui est fort. Et cette seconde image est reprise en Apocalypse 18 pour décrire la chute du système impie du monde tel qu'il est représenté par Babylone la Grande. Mais ces deux images montrent Dieu qui réduit les ennemis de son peuple à la panique, à la débâcle, par une attaque soudaine de sa puissance divine. Et ce genre de délivrance de la part de Dieu n'est pas limité au temps de la Bible. Un commentateur raconte l'exemple presque littéral du scénario du psaume 48 que l'on voit dans la défaite de l'armada espagnole en 1588. La cause en jeu était l'Évangile. L'Angleterre s'était jointe à la cause de la réforme protestante et les Espagnols, fervents catholiques, étaient déterminés à passer à l'épée cette Église qui répandait l'Évangile. Le roi d'Espagne, Philippe II, a envoyé 130 galions de guerre portant 17 000 soldats pour réaliser la conquête. L'histoire rapporte la vaillante défense maritime de Sir Francis Drake dans la Manche et attribue au petit navire anglais plus agile un avantage sur les navires espagnols qui étaient très massifs, puissants mais moins maniables. Les Anglais ont vaincu l'ennemi, détruisant, capturant de nombreux navires, mais la véritable cause du triomphe des Anglais, c'était un changement soudain dans la météo. Avec un vent qui a soufflé les galions espagnols dans le chenal vers l'Écosse et qui a détruit des dizaines de navires fortement armés qui sont échoués sur la côte irlandaise. Moins de la moitié de la flotte espagnole est retournée vers l'Espagne. La défaite était si grande, si complète, que l'ère de la domination de la mer par l'Espagne a pris fin pour toujours. Et même si la plupart des historiens attribuent la victoire à l'habileté et au courage des Anglais, les Anglais eux-mêmes ont loué Dieu pour leur victoire. La reine Élisabeth a frappé une pièce pour célébrer la défaite de l'armada espagnole. Et sur la pièce, il y a cette inscription « Flavit et dissipati sunt », ce qui veut dire « Dieu a soufflé et ils ont été dispersés ». Et cette inscription se trouve sous le nom de Dieu qui était gravé en hébreu. Ce même Dieu est aujourd'hui encore la forteresse de son Église, la haute retraite de son peuple. Et même si la plupart d'entre nous ne voient pas des événements aussi dramatiques que ceux de Josaphat ou de la reine Élisabeth d'Angleterre, le verset 9 nous rappelle que Dieu est une puissance toujours présente pour son peuple. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Il est important pour des croyants de connaître ce que Dieu a fait dans le passé, ses puissants actes de salut, de délivrance, en particulier, bien entendu, sa victoire sur le péché et sur la mort, dans la croix du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons aussi faire l'expérience de la puissance de Dieu à l'œuvre parmi nous, en réponse à nos prières et dans la proclamation de l'Évangile. Un commentateur écrit ceci, « Nous avons aussi entendu ce que Dieu a fait dans la vie des autres, comment il les a aidés dans les moments difficiles, comment il les a protégés dans les moments de danger, et les a réconfortés dans la perte. Vos parents vous ont peut-être parlé d'actes spéciaux de Dieu. Au fur et à mesure que vous apprenez à lui faire confiance, vous devriez commencer à ressentir vous-même de telles bénédictions personnelles et devriez pouvoir dire, comme je l'ai entendu, ainsi ai-je vu. » Et le psalmiste continue et conclut sa louange pour la puissance de Dieu en écrivant au verset 9, « Dieu la fera subsister à toujours. » Il parle de la ville. Cela prouve que le psaume a en tête l'Église, dont la ville de Jérusalem n'est qu'une image, un symbole, un type. À un moment de l'histoire, Dieu a jugé Jérusalem, la Jérusalem terrestre, pour son idolâtrie. Il lui a permis d'être détruite par ses ennemis. Mais l'Église, la nouvelle Jérusalem, est établie pour toujours, selon les promesses de l'Alliance de Dieu. En parlant de l'Église qu'il bâtit, le Seigneur Jésus-Christ a promis que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, verset 18. Voilà la puissance de la cité de Dieu. Troisième grand point, parcourir la cité de Dieu. Parcourir la cité de Dieu. Après avoir loué la ville de Dieu pour sa splendeur, pour la puissance du Seigneur qui habite cette cité, le psalmiste va cataloguer un certain nombre d'autres attributs de Dieu qui sont révélés dans la ville pour sa louange. L'idée principale est celle du verset 11. « Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. » Le nom de Dieu implique tout ce que Dieu est, y compris ses grandes œuvres de salut pour son peuple. Et étant donné que ces grandes œuvres sont proclamées jusqu'aux extrémités de la terre, comme le dit le verset, une autre allusion à la mission de l'Église, de propager, de proclamer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, la louange de Dieu sort de sa ville. Le psaume 48 nous rappelle que, après avoir mis notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ pour notre salut, après avoir entré dans cette ville, l'appel principal de l'Église est de faire connaître, de proclamer l'Évangile pour le salut des personnes auprès comme au loin. On voit la manière dont l'Église rend témoignage de son amour. Verset 10, « Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. » Le temple a révélé l'amour miséricordieux de Dieu par les offrandes pour l'expiation du péché. Dans l'Ancien Temps, ces offrandes étaient très régulières. Nous regardons à l'offrande qui a été offerte une fois pour toutes, le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ sur le propitiatoire. Il a fait la propitiation pour son peuple. Nous aussi, nous proclamons l'amour de Dieu en prêchant la mort du Seigneur Jésus-Christ pour nos péchés. Et le Nouveau Testament établit ce lien encore et encore. L'apôtre Jean, par exemple, écrit 1 Jean 4, verset 10, « Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » L'apôtre Paul a enseigné cela à plusieurs reprises, en Romains 5, verset 8, par exemple. Il dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et bien entendu, la déclaration bien connue de Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternel. » L'Église rend louange à Dieu pour son amour, mais le psaume 48 célèbre aussi la justice de Dieu et les jugements de Dieu. La fin du verset 11 et le verset 12. « Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. » Et ceci se réfère principalement à la justice de Dieu en punissant le péché, son jugement en montrant la colère envers ses ennemis. Et nous célébrons aussi le fait que la main de Dieu est pleine de justice, puisque Dieu justifie les pécheurs par le don de la justice. Cette justice qui a été garantie par le Seigneur Jésus-Christ et qui nous est imputée, qui est mise sur notre compte par la foi et par la foi seule. Tandis que les filles de Sion se réjouissaient de voir les ennemis de Jérusalem dispersés, détruits dans les jugements de Dieu, les filles de l'Église se réjouissent en voyant Dieu surmonter ses ennemis aujourd'hui avec la puissance de la grâce pour en faire des croyants. De ceux qui sont par nature des enfants de colère, il en fait ses propres enfants. Et c'est ainsi, entre autres, que les gloires de Dieu sont manifestées dans sa ville sainte, sa ville de Jérusalem, sa nouvelle Jérusalem, l'Église, en sorte que le psalmiste invite les lecteurs à parcourir la ville pour apprendre à louer Dieu, à transmettre la foi aux générations suivantes. Verset 13, « Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. » Et c'est ce que nous devrions faire nous aussi, en venant à connaître les grandes vérités nous-mêmes qui sont révélées dans la parole de Dieu et à les faire connaître à d'autres, et en particulier à la génération suivante. Quels sont les remparts de l'Église? Quels sont les remparts qui la protègent pour toujours? Le grand théologien puritain John Owen a souligné 5 remparts de notre foi pour nous assurer de la sécurité de notre salut. Premièrement, John Owen souligne la royauté de Jésus-Christ pour la véritable Sion. Le monde a vu beaucoup de rois, beaucoup de dirigeants, mais qui ne passent. Certains sont sages, d'autres sont cruels. Le croyant peut célébrer le règne éternel du roi Jésus-Christ sur son Église. Un commentateur dit ceci, « Il est tout à fait souverain, merveilleusement compatissant, sage et extraordinairement patient. Et tout cela en même temps. De plus, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Son royaume est un royaume éternel. » Et avec le Seigneur Jésus comme seigneur et roi, nous ferons l'expérience de bénédiction, de paix dans la ville où la justice habite, la Nouvelle Jérusalem. Deuxièmement, John Owen souligne les promesses de Dieu qui sont innombrables. Dieu doit être fidèle à tout ce qu'il a promis, et il le sera. Il sera fidèle. Et son Église demeure en sécurité parce que Dieu a garanti sa sécurité. Nous avons besoin de savoir ce que Dieu a promis dans l'Écriture, le pardon du péché, la vie éternelle, la résurrection dans la gloire. Et nous devons compter sur ces promesses lorsque le doute, lorsque les moments difficiles surviennent, lorsque nous traversons des épreuves, nous pouvoir nous raccrocher à ces promesses et nous rappeler que nous sommes en route vers cette nouvelle Jérusalem qui sera glorifiée, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Apocalypse 21. Les promesses de Dieu qui sont innombrables. Troisièmement, Owen souligne la providence vigilante de Dieu sur l'Église. Les hommes, vous et moi, nous surveillons attentivement les trésors que nous chérissons. On se soucie de nos familles, de nos biens. Alors on va placer des systèmes de sécurité, de surveillance. On se soucie de notre argent. Alors on a des conseillers financiers qui vont surveiller notre portefeuille et nos comptes bancaires. Mais notre vigilance est imparfaite et elle peut échouer. Dieu chérit son Église. Il chérit ses enfants et sa vigilance ne manque jamais. Le psaume 121 dit ceci dans les versets 4 et 7. « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Il est donc impossible que les événements surprennent le Seigneur par rapport à son Église, par rapport à son peuple. Il n'est jamais pris au dépourvu. Sa vigilance est sans faille. Sa vigilance est un rempart. Sa vigilance est une haute retraite, est une forteresse pour nous. Dieu veille et il prend soin de son peuple. Quatrièmement, John Owen souligne que l'Église est protégée par la présence spéciale de Dieu en elle. Non seulement Dieu veille sur l'Église, mais il est au milieu de son peuple. Les Juifs dans l'Ancienne Alliance regardaient vers le Temple, vers l'Arche de l'Alliance. Ils savaient que Dieu était présent dans leur ville, dans Jérusalem. C'est pour ça que le psalmiste peut se réjouir dans le psaume 46, verset 6. « Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. » Psaume 46, verset 6. Ici, dans le psaume 48, verset 4, le psalmiste se réjouit que Dieu est dans ses palais. L'Église en tant qu'entité, mais le chrétien en tant qu'individu, peuvent se réjouir d'avoir la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu demeurant en eux. L'histoire a montré que les murs physiques de Jérusalem ne pouvaient pas protéger le peuple de Dieu si Dieu les abandonnait. Quand il les punissait, quand il les jugeait pour leur idolâtrie, pour leur péché. Quand Jérusalem a été reconstruite, le Seigneur a mis au défi Zacharie de chercher une protection plus forte que la pierre, plus forte que le fer, à savoir mettre sa confiance en l'Éternel. Zacharie 2, verset 5, Dieu dit ceci, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Ce ne sont pas les pierres, ce ne sont pas les murailles physiques, la présence de Dieu au milieu de son peuple, Zacharie 2, verset 5. Combien il est important aujourd'hui, alors que l'Église ne regarde pas au nombre de personnes présentes, même si nous souhaiterions, nous aimerions avoir plus de personnes, mais que nous ne regardions pas au nombre de personnes présentes, ou à l'argent sur les comptes bancaires, ou à l'excitation charnelle lors des cultes pour garantir notre sécurité. Que notre gloire en tant qu'Église soit la présence de Dieu au milieu de son peuple, au moyen du Saint-Esprit, et surtout dans la prédication de tout le conseil de sa parole, avec l'onction de son esprit. La présence, l'Église est gardée par la présence spéciale de Dieu en son sein. Et cinquièmement, John Owen résume tous ces remparts dans la grande force et l'assurance que le peuple de Dieu trouve dans l'alliance de Dieu. Toute notre espérance, toute notre sécurité sont liées à l'alliance de Dieu pour notre salut. Dieu s'est lié par serment, un serment qui a été scellé dans le sang de Christ. Et il s'est engagé à sauver tous ceux qui se tournent vers lui dans la foi pour le salut. Tous ceux qu'il a aimés de toute éternité. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même le dit que aucun d'eux ne pourra échapper, aucun d'eux ne sera perdu. Tous ceux que le Père lui donne viendront à lui et il n'en repoussera aucun. Et c'est l'argument de l'auteur de la lettre aux Hébreux qu'il présente avec tellement d'éloquence à ses lecteurs craintifs, ses lecteurs qui font face à la persécution. Il dit par la foi en Jésus-Christ, ils sont venus non pas au mont Sinaï de l'Ancienne Alliance, avec ses menaces effrayantes de la loi, mais ils sont venus à la montagne de Sion, de la nouvelle alliance en Christ, avec ses remparts de la grâce qui sauve. Et l'auteur va dépeindre les croyants comme ayant gagné la sécurité dans la ville élevée sur la montagne de Dieu, qu'ils sont forts, ils sont en sécurité dans la fidélité de Dieu à son alliance. Il écrit en Hébreux 12, versets 22 et 23. « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. » La plus grande de toutes nos sécurités, de nos prétentions à la vie éternelle, c'est la nouvelle alliance scellée dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, du Fils de Dieu, mort pour nos péchés. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux continue en disant que la ville de Dieu est protégée par, il dit, Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12, verset 24. L'auteur de la lettre aux Hébreux conclut avec deux exhortations. D'abord pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans la cité de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il dit au verset 25, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Parce que refuser d'entendre, rejeter l'Évangile, c'est devenir l'un des ennemis sous la colère de Dieu. Et ensuite aux croyants, il livre une exhortation qui est semblable à, au psaume 48. Il écrit au verset 28 et 29, toujours au chapitre 12. « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Et quatrième point pour terminer, notre Dieu pour toujours. En voyant la splendeur, la puissance, la sécurité de notre salut dans cette cité de Dieu, les croyants devraient le raconter à la génération future. Au verset 15, « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Dieu est notre guide pour nous conduire au salut. Il est pour toujours, de sorte que nous pouvons lui faire confiance dans toutes nos espérances et nous reposer sur lui de toute notre âme. Mais le plus important, c'est peut-être l'exclamation verset 15, « Voilà le Dieu qui est notre Dieu. » C'est le point du psaume pour le croyant, même le croyant aujourd'hui. Le Dieu de la Bible, le Dieu du psaume 48, le Dieu glorieux, plein de beauté, plein de puissance, plein de fidélité dans le salut, est notre Dieu, par la foi en Jésus-Christ, afin que nous vivions avec assurance, avec cette espérance glorieuse d'être un jour avec lui, avec l'espérance et la joie. Quel que soit le choix du monde concernant les réponses à qui faire confiance, qui adorer, nous, nous exalterons le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui s'est révélé dans sa parole. La déclaration finale du psaume 48 souligne que si l'on s'engage avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, il nous guidera dans la vie éternelle, nous protégera de tout ennemi qui pourrait détruire notre âme. Et le texte hébreu est particulièrement frappant, parce qu'il dit non seulement que Dieu nous guidera pour toujours, mais que Dieu nous guidera à travers la mort. Dieu nous guidera à travers la mort. Notre traduction dit jusqu'à la mort. En fait, il faudrait dire à travers la mort. Même la mort ne peut nous séparer de Dieu. Il n'y a aucun pouvoir, aucun ennemi, aucune menace qui puisse vaincre ou détruire le peuple de la cité de Dieu, le peuple de l'Église de Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul s'est écrit en Romains chapitre 8, ces merveilleux versets où dit que rien, rien, absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté envers nous en Jésus-Christ. Et Jésus dit en Jean 6, verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà, voilà notre espérance, voilà notre avenir. Mais déjà, dès à présent, nous pouvons nous réjouir de la merveilleuse identité de ce peuple de Dieu, de cette nation de Dieu, de cette nouvelle Jérusalem dans laquelle Dieu nous a fait entrer, de voir déjà en elle tous les privilèges, de savoir que nous sommes gardés, non pas seulement par la vigilance de Dieu, mais aussi parce que Dieu est présent au milieu de son peuple et dans la vie de chacun de ses enfants. Que Dieu nous aide donc à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.